Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Bonjour Éric Baer.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux, chercheur au Greta et d'ailleurs plus au Greta, mais Bordeaux School of Economics et membre des économistes atterrés. Et tu vas aujourd'hui nous parler de la réforme des retraites que le gouvernement souhaite faire passer cet hiver et appliquer dès l'été 2023.
En effet, oui, parce qu'après l'avoir abandonné en 2020, suite, on se rappelle, à une mobilisation importante de la population, le gouvernement remet sur la table sa réforme des retraites qu'il souhaite imposer, plutôt, malgré une opposition massive de la population. C'est notamment le cas concernant le recul de l'âge légal de départ à la retraite, hein, qui suscite une opposition massive de la population. Hein. Il y a un sondage dernièrement qui montrait que c'était plus de 70% des Français qui sont opposés à ce recul de l'âge légal de départ à la retraite.
Alors le gouvernement met en avant que c'est le déficit du système de retraite qui rendrait indispensable sa réforme. Qu'est-ce que tu penses de cet argument ?
Alors, comme à chaque fois qu'un gouvernement souhaite attaquer le système de retraite, il dresse un tableau sombre de la situation qui rendrait inévitable sa réforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système de retraite est excédentaire en 2021, hein, de 900 millions d'euros. Et qu'il devrait l'être également en 2022 pour environ 3,2 milliards d'euros. Alors ensuite, effectivement, il y a un déficit qui est annoncé, par exemple jusqu'en 2032, qui représenterait entre 0,5 et 0,8 points de PIB. Mais ce déficit annoncé là jusqu'en 2032, il est largement fictif. En fait, il provient d'une modification des hypothèses retenues en matière de chômage par le gouvernement dans le programme de stabilité qu'il remet tous les ans à la Commission européenne. L'an dernier, en 2021, dans ce rapport, le gouvernement tablait sur un taux de chômage de 8,4% à l'horizon 2027. Et cette année, dans le rapport qu'il a envoyé au printemps 2022, eh bien, il vise le plein emploi et en 2027, ce qui équivaut à un taux de chômage de 5%. Le problème, c'est que le Conseil d'orientation des retraites, hein, qui est un organisme qui a été créé en 2000, qui chaque année publie un rapport sur l'état général du système des retraites et sur les options possibles de pilotage à moyen et long terme, ce rapport est tenu de retenir les hypothèses du gouvernement à l'horizon 2027, mais au-delà, établit les siennes. Et le corps prévoit en 2032 un taux de chômage de 7%. Ça l'oblige donc dans ses prévisions à simuler une récession entre 2027 et 2032 afin de faire passer le taux de chômage de 5%, la prévision très irréaliste du gouvernement, à 7%, qui est l'hypothèse beaucoup plus réaliste du corps. Mmh. Et donc c'est cette récession qui fictive, hein, parce que c'est juste un artifice que le corps est obligé de simuler, qui explique en grande partie le déficit du régime des retraites qui est constaté sur cette période, et sur lequel le gouvernement s'appuie afin de justifier sa réforme. Alors, ce qui est vrai, c'est que le régime sera légèrement déficitaire dans les années à venir, mais rien de bien grave. Alors, ça ne vient pas du côté des dépenses, comme on le croit souvent, qui sont stabilisées, et d'ailleurs elles le sont suite aux précédentes réformes, puisque la part des dépenses de retraite dans le PIB se stabilise à environ 14%. Mais qui engendre toutefois, hein, ces réformes précédentes, elles engendrent toutefois une baisse du niveau de vie des retraités, puisque le nombre de retraités va quant à lui augmenter. En fait, le déficit provient d'un manque de ressources dû notamment aux mesures d'économie sur la masse salariale de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui entraîne une baisse des cotisations.
Alors le gouvernement dit que sa réforme permettra de dégager des marges de manœuvre pour financer les services publics, justement.
Oui, alors là, on n'est pas du tout obligé de le croire, surtout si on garde à l'esprit que son objectif affiché est de revenir à un déficit public inférieur à 3% du PIB en 2027 et que dans le même temps, il souhaite poursuivre sa politique de baisse d'impôts. Alors, baisser le déficit public tout en baissant les impôts, ne laisse pas beaucoup d'alternatives et impose donc de réduire fortement les dépenses publiques. Donc, Dans ce cadre-là, dire, comme le fait le gouvernement, que les économies réalisées par la réforme des retraites permettront d'investir dans la santé ou l'éducation, par exemple, est un mensonge. Dans les faits, ce que l'on voit, c'est que les gains prévus de cette réforme des retraites, qui représentent environ 8 milliards d'euros, vont simplement compenser les nouvelles baisses d'impôts sur la production, qui, elles aussi, représentent 8 milliards d'euros de manque à gagner. Dit autrement, bien les futurs retraités vont payer la politique de cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron.
Si ces deux arguments donc avancés par le gouvernement, déficit et dégager des marges de manœuvre pour financer les services publics, si ces deux arguments sont faux, quelles sont pour toi les véritables motivations de cette réforme des retraites, Eric?
Alors, je crois qu'on peut voir trois motivations principales. La première est liée au marché du travail. Le gouvernement veut empêcher une augmentation généralisée des salaires, ce qui a déjà motivé sa réforme de l'assurance chômage et celle qui va venir également. Cette réforme de l'assurance chômage qui, en réduisant les indemnités perçues par les chômeurs, bien, souhaite les contraindre à accepter des emplois peu payés. La réforme des retraites, notamment avec le report de l'âge légal de départ à 65 ans, vise quant à elle à augmenter l'emploi des seniors, instaurant ainsi plus de concurrence sur le marché de l'emploi, puisqu'il y aura plus de personnes plus âgés qui, plutôt que d'être à la retraite, seront également sur le marché de l'emploi. Et donc cela conduit à une pression à la baisse sur les salaires. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà aujourd'hui, 40% des gens ne sont plus en emploi au moment de partir à la retraite. Cette réforme va donc conduire à transformer des retraités en travailleurs précaires ou en chômeurs. Ça, c'est la première motivation. La seconde motivation est liée aux finances publiques. Comme je l'ai déjà dit, derrière les effets d'annonce, cette réforme va servir à financer les baisses d'impôts et à réduire le déficit public. Et enfin, la troisième motivation vise, en réduisant le niveau des pensions, à favoriser les retraites complémentaires et à introduire une dose de capitalisation, hein, ce que les acteurs privés du secteur demandent de longue date. Donc, je dirais, pour conclure, que également, au-delà des arguments économiques qu'on a évoqués là rapidement, je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'au travers de cette réforme, c'est un véritable choix de société qui nous est soumis, hein. Est-ce que l'on doit se résoudre à travailler plus longtemps car on vit plus vieux, comme tente de nous convaincre le gouvernement, c'est-à-dire, dit autrement, la vie est-elle limitée à notre capacité à travailler, ou au contraire, la retraite est-elle un nouvel... Doit-on considérer que la retraite est un nouvel âge de la vie, ce qui suppose de ne pas appauvrir les retraités comme se prépare à le faire Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Eric Berge. Je rappelle que tu es maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Celle-ci est déjà en podcast sur le site de laclédesondes.fr et également sur la plateforme Spectre. Merci à toi Eric.
Merci, au revoir.